pour la présidence. Nos louanges et nos actions de grâce traversent les murs de ce local, de cette église, et s'élèvent vers le trône de la gloire de Dieu. C'est pas beau, ça? Ce que nous faisons ce matin, les actions de grâce, les chants, les prières d'adoration que nous faisons, montent vers la gloire de Dieu. Et il prend plaisir, malgré toutes les imperfections qui peuvent encore nous caractériser, à écouter nos chants de louange, nos actions de grâce et nos prières d'adoration. Voilà pourquoi nous louons Dieu ce matin, parce qu'il prend plaisir, malgré nos faiblesses, à nous entendre le louer. On lira dans Matthieu 16 aujourd'hui un seul verset, qui fait suite à la première mention de l'Église faite par Jésus lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ou les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Un passage aussi, un verset qui fait suite à cette confession de Pierre qui affirme, qui déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, nous lirons ce verset, c'est le verset 24, qui peut s'afficher là derrière. Et Jésus, donc, dit ceci à son entourage. Si quelqu'un, c'est un verset qui est tellement bien connu, hein, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, une petite remarque préliminaire qui a aussi son importance, c'est que ce verset ne fait aucunement allusion au salut par la grâce, ni à la justification par la foi. On n'est pas sauvé par une vie de disciple. Toutefois, la vie de disciple est, ou devrait en tout cas être, la conséquence logique d'une foi authentique. Alors, donc, Jésus rappelle les caractéristiques essentielles d'un vrai disciple. Premièrement, le renoncement à soi. Deuxièmement, le fait de porter, de se charger de sa croix. Et enfin, le fait de suivre l'exemple de Jésus, de s'engager auprès de Jésus, pour Jésus. Alors, l'homme et la femme que nous sommes a tendance à être son propre Dieu, à installer son moi, à installer son ego sur le trône de sa vie. Depuis le péché originel, depuis la chute, eh bien, l'homme est centré sur lui-même à cause du péché. Alors, Charles Simeon, qui est un commentateur du 18 et du 19e siècle, dit ceci, d'intéressant, « Depuis l'introduction initiale du péché dans le monde, les hommes ont rejeté l'amour et la crainte de Dieu et se sont soumis à la domination du moi. Depuis la chute, les hommes sont dominés par leur moi. Ils sont soumis à la domination de leur moi. Et toutes les émanations de notre moi, donc qui sont en définitive les œuvres de la chair, comme le rappelle l'apôtre Paul en Galates 5, verset 19, que nous connaissons aussi, et qui nous dit, dans la version en français courant, « En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, donc le moi, est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Tout ce que produit la vieille nature vous est familier. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, l'ivrognerie, la haine, etc. Donc, toutes ces choses qui sont produites par le moi, l'être naturel, je dois y renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Toutes ces choses, je dois y renoncer parce que ce moi-là, cet égo, eh bien, il a été cloué à la croix. Il a été crucifié à la croix. Et l'apôtre Paul, en Galates chapitre 2, verset 20, dit ceci, un verset aussi qui est très bien connu, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus mon ego. Ce n'est plus ma nature charnelle qui conduit ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Bannir le « moi » pour laisser la place au Christ vivant qui veut régner dans nos vies. Alors, le côté charnel de mon être, j'y renonce, je veux le chasser. Renoncer à soi, c'est donc, comme je venais de le rappeler il y a un instant, c'est détrôner notre « moi » et le remplacer par la seigneurie de Jésus-Christ, du Christ vivant. Ce n'est pas une perte de notre identité, de notre personnalité, ce n'est pas une dépersonnalité, mais c'est tout simplement une allégeance complète et totale envers Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, on raconte, mais je vais enlever ma veste, si vous le permettez, parce que la chaleur monte. Hein. Il y a un petit porte-manteau juste ici. On raconte, donc, disais-je, que saint Augustin, un père de l'Église du IVe siècle, un jour s'est trouvé nez à nez avec une femme qui avait été sa maîtresse avant sa conversion. Alors, quand il l'a croisée, quand il s'est aperçu que c'était elle, il a vite rebroussé chemin et accéléré son pas. Mais, l'ayant reconnu, la femme lui criait « Augustin, c'est moi ! C'est moi !» Et de lui répondre, en hâtant le pas et au-dessus de son épaule, « Je sais, mais ce n'est plus moi !» Il avait renoncé, renié son « moi ». Ce n'est plus moi, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En résumé, donc, renoncer à soi, c'est refuser de continuer à vivre dans le péché. C'est renoncer à mon moi, à mon égocentrisme, à mes penchants naturels, à ma vieille nature, au vieil homme aussi, comme nous l'avons rappelé, parce que par la foi, je crois qu'il a été cloué avec le Christ et que désormais je suis appelé à vivre une vie en conformité avec celle de Jésus ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et est-ce que je renonce au quotidien à ce moi naturel ? Est-ce que chaque jour de ma vie, je renie mon égocentrisme, je renie le moi qui caractérise ma vieille nature. Première question. Ça, c'était le premier point. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il se charge de sa croix. Alors, se charger de sa croix, aujourd'hui, ça a pris une tournure un petit peu différente. On parle de porter sa croix quand on souffre d'une maladie, ou bien quand on traverse une épreuve, je porte ma croix, ou bien quand on a un enfant qui est difficile, ah, je porte ma croix, ou j'en ai une bonne avec lui, ou bien quand on a un époux ou une épouse ou un conjoint qui est pénible, ah, je porte ma croix. Ou bien quand on a un voisin qui est un peu récalcitrant ou bien agaçant, je porte ma croix avec celui-là. Mais cette conception de porter sa croix, cette conception contemporaine que nous avons de porter la croix, n'a rien à voir avec la conception biblique. La croix, au temps biblique, eh bien, c'était l'instrument utilisé par les Romains lors de la peine capitale, comme nous le savons. C'était l'instrument utilisé par les Romains pour la peine capitale. Après un procès où l'accusé était condamné à mort, il y avait une sorte de procession qui se formait. Et le prisonnier, à sa sortie du tribunal, était forcé de prendre sa croix, de porter sa croix, ou tout au moins une partie de la croix, le madrier, la partie horizontale de la croix. Et il devait traverser la ville devant la foule qui le regardait. Et aux yeux de la foule, aux yeux des patients, aux yeux de la masse qui le regardait, c'était la preuve de la culpabilité du coupable, forcément, et aussi la preuve de sa condamnation à mort imminente. En plus de cela, tous ceux qui le voyaient passer se moquaient de lui. Il était l'objet de railleries, de mépris, de haine, d'injures, etc. Et quand Jésus s'adressant à ses disciples, leur dit, « Si vous voulez être de vrais disciples, vous devrez porter votre croix. Si vous voulez être d'authentiques disciples, vous devrez porter votre croix comme moi-même j'ai porté la mienne. » Le monde, Jésus signifie par là que le monde va vous considérer comme il m'a considéré en portant ma croix. Et comment le monde a-t-il considéré Jésus qui portait sa croix? Eh bien, tout d'abord en Matthieu 26, verset 67, mais ce n'est pas la peine d'afficher le verset, en lui crachant au visage. Toujours au verset 67 de Matthieu 26, en lui donnant des coups de poing et des soufflets, des gifles. En le liant, Matthieu 27, verset 2. En lui ôtant ses vêtements, verset 28, Matthieu 27, verset 28. En lui tressant une couronne d'épines et en le raillant, Matthieu 27, verset 29. En crachant sur lui, en frappant sur sa tête, Matthieu 27, verset 30, et en définitive en le crucifiant. Si vous voulez devenir mes disciples, attendez-vous à ce que le monde vous traite comme il m'a traité. Les disciples étaient bien conscients que lorsque Jésus leur parlait d'une croix qu'ils devaient porter, qu'ils avaient à porter, eh bien, qu'ils devaient désormais s'attendre, pour la cause de Christ, à endurer souffrance, moquerie, raillerie, rejet, haine, coup, et le cas échéant, la mort. Les disciples étaient bien conscients de cette réalité. Suivre Jésus, être son disciple authentique, allait inévitablement conduire les disciples à suivre le même chemin que leur maître. Paul, l'apôtre Paul, eh bien, il se vit traité de la même manière que Jésus. En suivant finalement son Seigneur, il eut aussi apporté sa croix. Quand on lit le livre des Actes, eh bien, on voit qu'il est parsemé de tribulations qu'il a rencontrées en défendant la cause de Christ, en proclamant l'évangile de vérité. Et puis, en 2 Corinthiens, peut-être que tu peux l'afficher, la Valentin. En 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28, il établit une liste de toutes les souffrances qu'il a dû endurer pour la cause de l'Évangile. Et il écrit donc ceci, trois fois. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, etc. Donc l'apôtre Paul a aussi eu à porter sa croix. Et quand on lit, quand on considère les différents chrétiens et chrétiennes qui ont jalonné le cours de l'histoire de l'Église, eh bien nous voyons aussi que eux également ont dû apporter leur croix. Et parmi tous les exemples nombreux que citent les martyrologues, mentionnons celui de Blandine de Lyon, qui fut martyr vers l'an 170 de notre ère. Et Eusèbe de Césarée dit ceci en ce qui concerne Blandine. « Après les fouets et bien d'autres tortures, elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau qui s'acharna sur elle. Les païens eux-mêmes avouaient, poursuit Eusèbe, que jamais chez eux une femme n'avait souffert d'aussi grandes et d'aussi nombreuses tortures. » Blandine de Lyon a souffert pour défendre la cause de l'Évangile. Et puis aujourd'hui encore, dans certains pays où le régime est hostile à la foi chrétienne, on voit bon nombre de chrétiens qui sont persécutés, qui sont jetés en prison, qui sont parfois mis à mort aussi à cause de leur foi. Dans les pays, en Corée du Nord, en Chine, en Inde, dans les pays du Maghreb, en Iran, en Irak, il suffit de voir, de lire de temps en temps la brochure, la porte ouverte. Il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui souffrent, qui ont une croix lourde à porter à cause de Christ, pour la cause de Christ. Que signifie pour nous aujourd'hui, chrétiens, en Occident, en Belgique, le fait de porter sa croix? Nous sommes des privilégiés, frères et sœurs. Nous avons un grand privilège aujourd'hui. On ne risque pas, parce qu'on parle de Jésus, être traîné devant les tribunaux, être jeté dans les prisons, être lancé dans des arènes où il y a des lions. C'est un grand privilège que nous avons. Tout au plus, risquons-nous de subir une forme de persécution légère, comme une moquerie, un sourire. Oh, tu crois un Dieu fait homme, toi? Tu crois que ce Jésus est né d'une vierge? Tu crois qu'il est ressuscité, vraiment? Mais fais-moi rire. Donc, nous sommes susceptibles de subir ce genre de persécution légère. Cependant, même ce genre de persécution, on ne la rencontre pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on n'affiche pas suffisamment notre discipula. Parce que notre christianisme ne transparaît pas aussi peu de nos vies. Parce que nous avons tendance à nous conformer au siècle présent. Nous avons tendance à nous conformer au monde, à être dans le même moule que celui du monde. Alors, quelle souffrance est-ce qu'on risque? Il n'y a pas de contraste marquant entre le chrétien et la personne qui a été régénérée, qui est sous la domination du monde. Et comme il n'y a pas une différence notoire, eh bien, les gens, ils ne se moquent pas de nous. Essayons par exemple de, quand on nous aborde pour nous poser diverses questions concernant notre foi, de dire, moi, j'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé, j'ai une relation avec lui, personnelle. Il est devenu mon maître, je suis son disciple. Plutôt que de répondre par un évasif, je suis protestant, ou je crois en Dieu. Ça ne veut rien dire, croire en Dieu. Il y a plein de gens qui croient en Dieu. Donc, même cette forme de persécution légère, aujourd'hui, chrétiens d'Occident, nous la rencontrons si peu parce que nous avons du mal à afficher clairement notre identité de chrétien. Et pourtant, nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas ? On est vraiment des privilégiés. C'est une grâce de Dieu que nous avons de vivre dans un pays où il y a la liberté d'expression, de pensée, de culte, de croyance. Et pourtant, Jésus n'a pas éludé ce trait du service. Il a clairement annoncé la couleur pour ceux qui désirent venir après lui, pour reprendre l'expression du texte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Jean 16, verset 33 nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Jésus nous a avertis que nous allions avoir ou rencontrer des tribulations dans le monde. On n'en rencontre pas. Et on n'en profite pas, ou peu. Jésus a d'autres reprises en Luc 22, 6, verset 22, pardon, écrit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Et puis il y a d'autres exemples. Jésus nous a informé que si nous voulons le suivre fidèlement, si nous voulions être d'authentiques disciples, il allait y avoir un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de porter sa croix, de porter notre propre croix. Et puis il y a un Pierre qu'on peut citer aussi, 1 Pierre 4, verset 1. « Christ ayant souffert dans la chair, faites-vous aussi à l'idée que vous aurez à souffrir. » Ou armez-vous de cette même pensée. « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, vous souffrirez dans la chair. » Donc, le Seigneur a été clair là. Tout témoignage fidèle, authentique, sera accompagné de persécution, qu'elle soit brutale, qu'elle soit importante ou qu'elle soit plus légère. Jésus a informé bien longtemps à l'avance que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Alors, est-ce que nous sommes prêts à porter ou à supporter l'opprobre, les diffamations, la souffrance pour le nom de Christ ? Nous sommes des témoins, nous sommes des disciples. Voulons-nous remplir ce rôle, nous acquitter de ce statut avec fidélité, tout en connaissant les conséquences. Alors, le troisième point que Jésus mentionne, si quelqu'un veut venir après moi, un, qu'il renonce à lui-même, deux, qu'il se charge de sa croix. Trois, qu'il me suive. Qu'il me suive. Qu'il suive son exemple. Qu'il marche dans ses traces. C'est donc le dernier point que Jésus mentionne pour définir le véritable disciple, le vrai disciple. Et alors, Ingrid ? vivre, agir, réagir, parler, penser comme Jésus. Suivre Jésus. Qu'il me suive. S'identifier à Jésus. L'avoir pour modèle. L'avoir pour point de référence. L'avoir comme exemple suprême. C'est tout un programme. Et c'est le programme de toute une vie. Le programme de toute une vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. Alors j'ai relevé 3 signes distinctifs tirés de l'évangile de Jean qui nous permettent de jauger la qualité du disciple de Jésus-Christ. Et le premier, c'est, on le trouve dans, tu peux bien l'afficher dans Valentin, Jean 13, verset 35. C'est l'amour. Premier trait qui caractérise un véritable disciple de Jésus-Christ. Premier trait qui caractérise celui qui veut suivre le Christ Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avoir de l'amour les uns pour les autres. Cet amour qui considère les autres comme supérieurs, comme meilleurs que soi-même. Cet amour qui couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'il les excuse, mais ça veut dire qu'il ne va pas étaler au grand jour les péchés de son frère ou de sa sœur en vue de son humiliation ou bien de la destruction de sa réputation. C'est ça l'amour qui couvre, qui cache les péchés d'autrui. Et puis l'amour, cet amour qui est patient, cet amour qui est plein de bonté, cet amour qui n'est point envieux, cet amour qui ne se vante pas, cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Et vous voyez à quelle référence je fais allusion, cet hymne à l'amour que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. La première caractéristique du disciple de Jésus-Christ, c'est donc que sa vie est caractérisée par l'amour. L'amour, ce n'est pas des sentiments. Uniquement, en tout cas. Mais l'amour, dans la conception, et si on s'en réfère au terme que l'apôtre Paul utilise ici, c'est vraiment un amour qui donne, qui se consacre pour les autres. C'est l'agapé, finalement. Donc, l'amour qui se donne, qui donne. Alors, le deuxième trait distinctif des vrais disciples, c'est également mentionné au verset 8 de l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean 15, verset 8. Valentin, si tu peux l'afficher. C'est le fait qu'il porte des fruits. Et Jésus dit ici dans l'évangile de Jean, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Deuxième caractéristique du disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il porte beaucoup de fruits. Un fruit, c'est beau, un fruit, c'est bon. Nos fruits doivent être beaux pour Dieu et bons pour les autres, afin que Dieu lui-même soit glorifié à travers les fruits que nous portons. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Est-ce que je porte des fruits en tant que disciple de Jésus-Christ? On pourrait rappeler Galates 5, 22, et puis tous les fruits auxquels la parole de Dieu fait référence. Mais portons-nous du fruit. Caractéristique du vrai disciple, porter des fruits. L'amour, et puis porter des fruits. Enfin, ensuite, le troisième signe distinctif, c'est persévérer sans défaillance dans sa parole. Jean 8, 31. Jean 8, verset 31. Et Jésus dit cette fois, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. La troisième caractéristique d'un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il demeure dans sa parole. Le disciple de Jésus lit, étudie, médite et applique dans sa vie la lecture de la parole de Dieu. Troisième caractéristique, il nous faut nous conformer, soumettre notre vie à la parole de Dieu. Et pour cela, bien, il faut évidemment la lire, la méditer et la vivre. Et enfin, aussi, je relisais dans un vieil almanach évangélique cette histoire vraie, authentique, d'une petite fille qui était aveugle. Vous connaissez peut-être cette histoire-là. Je vais vous la relire. C'est à la fois émouvant et encourageant. Une petite aveugle avait appris à lire dans des livres pour les aveugles, donc l'écriture en braille, comme on l'appelle, dont les lettres sont en relief. Elle touchait les lettres avec ses doigts. De cette façon, elle pouvait faire quelque chose que ni vous ni moi, nous ne saurions faire. Elle pouvait lire sa Bible dans l'obscurité aussi bien qu'en plein jour. Elle aimait beaucoup la Bible parce qu'il y est question du Seigneur Jésus qui était son cher et précieux sauveur. Mais il lui arriva un grand chagrin. À force de se servir de ses doigts, ils s'endurcirent et devinrent si cailleux qu'elle ne pouvait plus sentir les lettres. Elle eut l'idée de s'enlever cette peau durcie, mais hélas, elle se fit mal. Et quand ses doigts blessés se cicatrisèrent, elle ne pouvait plus lire du tout. Un jour qu'elle était assise, son livre sur les genoux, essayant en vain de sentir les lettres, accablée de chagrin, elle éclata en pleurs, puis, se baissant, elle embrassa le livre qui lui était si cher, comme pour lui dire adieu à toujours. Mais, oh surprise, en baisant la page, une grande joie traversa son cœur. Elle avait senti le relief des caractères avec ses lèvres. Elle les avait reconnus. L'espoir lui revint. Tous les jours, elle s'exerça à lire avec ses lèvres et bientôt, la pauvre aveugle, qui ne pouvait plus lire avec ses doigts, lisait avec sa bouche. Oh, poursuit le rédacteur de cette petite histoire, oh, cher lecteur, cette histoire qui est vraie, ne nous donne-t-elle pas une grande leçon, nous qui pouvons si facilement lire la parole de Dieu, la lisons-nous, nous est-elle précieuse comme elle l'était pour cette petite aveugle. Béni soit le Seigneur, nous avons des yeux. Et ce n'est que quand on les perd, quand ils sont détériorés, qu'on se rend compte, ah mais les yeux c'était tellement important. Mais que faisons-nous avec nos yeux? À quoi nous servent-ils? Cette petite histoire nous encourage à mettre au centre la parole de Dieu. Elle nous encourage à lire, à méditer et à vivre cette parole de Dieu. C'est aussi une des caractéristiques du disciple, du vrai disciple de Jésus-Christ. Il témoigne de l'amour, il porte du fruit et il demeure attaché à l'Écriture. Il demeure attaché à la lecture de la Bible. Pardon. On arrive bientôt à la conclusion. Il y a un certain Robert Cook, et j'ai lu cela dans un fascicule, il y a un vieux fascicule d'opération mobilisation, une œuvre missionnaire. Robert Cook écrit ceci. La Bible est éternellement vraie, qu'on y croit ou non, qu'on la lise ou pas, mais elle prend de la valeur à nos yeux, à vos yeux, lorsque vous en saisissez le message pour vous-même. Et ici, il dit quelque chose de très important. Ne quittez jamais un passage de l'Écriture tant qu'il ne vous a pas parlé. La parole de Dieu est une parole vivante. Dieu s'adresse à sa créature, à l'être régénéré, pour lui transmettre son message, sa volonté. Et il écrit « Ne quittez jamais un passage sans tant qu'il ne vous a pas parlé. » C'était son expérience. Je lis un passage, je lis un verset. Dieu a quelque chose à me transmettre. Dieu a quelque chose à me communiquer. Une promesse, un avertissement, un ordre, ou que sais-je encore. Je ne quitte pas le texte biblique tant qu'il ne m'a pas parlé, tant que je n'ai pas reçu ce que Dieu veut me communiquer, me transmettre. Alors, pour conclure, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sommes-nous désireux de devenir d'authentiques, de véritables disciples de Jésus-Christ? Pour cela, c'est vrai, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de compromis envisageable. Suivre Jésus, venir après lui, pour reprendre l'expression que Jésus utilise, implique trois choses. Le renoncement à soi, le fait de s'apprêter à porter sa croix et suivre Jésus dans un engagement total. Une vie de disciple qui se traduit, entre autres, par la manifestation de l'amour, par la production de fruits qui glorifient Dieu et font du bien à ceux qui nous entourent, et par le fait de lire, de méditer et de vivre la parole de Dieu. Il y a effectivement un prix à payer, mais il y a aussi une merveilleuse promesse qui est faite. C'est la rétribution finale que nous trouvons au verset 28 de Matthieu 16. Tu peux l'afficher, s'il te plaît, Valentin. Et nous terminerons par là. Car le Fils, c'est le verset 27, pardon. Et le verset 27, il dit ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. La vie du disciple est une vie pénible peut-être par moments, mais qui procure aussi la joie et la satisfaction de se savoir apprécié de la part de Dieu lui-même. Et puis, il y a cette merveilleuse promesse de rétribution finale. Chacun recevra selon ses œuvres. On prie. Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité et vie. Et je ne la lis pas suffisamment que pour pouvoir pleinement en profiter, que pour pouvoir pleinement recevoir ce message que tu veux me transmettre. Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé l'importance d'être des disciples authentiques, avec tout ce que cela comporte. Seigneur, nous savons que ce n'est pas une voie aisée, mais nous savons, Seigneur, que c'est une voie que tu agrées, que c'est ta volonté pour chacun de tes enfants, et qu'en définitive, Seigneur, tu honoreras lors de la rétribution finale ceux et celles qui auront marché dans cette voie pour leurs œuvres, pour leur vie de témoin et pour le rayonnement qu'ils auront eu sur cette terre. Seigneur, sois glorifié. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, ressasser ce verset, ce seul verset que nous avons rappelé ce matin, qui est sorti de ta bouche et que tu veux que nous appliquions dans chacune de nos vies. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.